Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour vous parler au nom de l'Union régionale des communes forestières, qui est d'ailleurs représentée par son président. Je suis que le président de... qui est au fond, Roger. Je ne suis que le président de la Haute-Savoie. Voilà, le président est Roger Villien. Il est au fond de la salle. Il est parmi vous aujourd'hui. Quelques mots pour vous, parce que je sais bien que nous sommes du côté genevois et suisse. Un sénateur, c'est un parlementaire de la haute chambre parlementaire française. Et donc, je représente mon département au Sénat français. Et donc, j'ai un rôle de parlementaire national, pour bien qu'on soit clair sur ce titre-là. Et l'autre, c'est un mandat, évidemment, au titre de mes fonctions locales, puisque je suis resté conseiller municipal de ma commune, après avoir été maire pendant près de 10 ans. Et je préside depuis un peu moins d'un an l'Association des communes forestières de Haute-Savoie. Nous regroupons les communes qui sont propriétaires de forêts, de bois, soumises ou non au régime forestier, donc dans lequel intervient l'Office national des forêts. Mais la réflexion qu'on a aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis très très heureux d'être parmi vous ce matin, c'est la question de l'évolution même, de la prise de conscience de ce qu'est le bois, de sa potentialité, de sa filière et de cette organisation-là. Nous ne sommes pas que des propriétaires de bois, nous ne sommes pas propriétaires que simplement que d'une ressource à valoriser au maximum, évidemment, mais nous sommes responsables d'un secteur économique, puisque nous en sommes à l'amont et que nous sommes des élus locaux, certes, mais responsables de cette filière. Et donc, vous savez qu'il y aura des élections municipales en France en 2020 qui vont renouveler, comme chaque fois tous les 6 ans, considérablement les élus municipaux. Et il faut absolument que l'enjeu de l'association que je préside depuis quelques mois maintenant, c'est de permettre de favoriser la prise de conscience, de former les élus à la filière, aux enjeux du bois et à toute les enjeux. Et donc vos réflexions que j'ai vues sur 3 jours sont des réflexions extrêmement intéressantes que nous partageons et sur lesquelles nous travaillons énormément avec Philippe Maqueda, avec Amélie Carteroni qui sont le vice-président et la chargée de mission qui sont présents aussi ce matin, parce que il y a un enjeu qui nous dépasse, qui dépasse simplement l'année 2019, qui doit nous permettre de préparer l'avenir. Et nous travaillons d'ailleurs avec l'ensemble de la filière. Alors, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on peut optimiser la ressource forestière grâce à des dynamiques territoriales? J'ai commencé à en parler. Et puis, je vais vous parler d'une initiative qui a été prise côté français avec des labels de qualité, des labels de provenance. Et c'est vrai que, pour moi, l'élu a un rôle absolument central d'aménageur du territoire quand il développe l'optimisation des systèmes économiques de la forêt dans le sens de l'intérêt général. Donc on part du maire ou de l'adjoint qui s'intéresse à ces parcelles de forêt pour en faire quelqu'un qui va s'ouvrir à des questions économiques et qui va ouvrir sa réflexion. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument important. C'est pourquoi les élus ont une place absolument centrale à jouer dans l'organisation de la filière bois au travers de différents rôles. Alors, le portage des politiques locales qui sont garantes de l'intérêt général, donc tout ce qui est évoqué autour de la table du conseil municipal, mais aussi dans les intercommunalités, puisque vous savez qu'en France, les intercommunalités prennent de plus en plus de poids, y compris dans le domaine de l'environnement et dans le domaine économique, le développement économique étant une compétence de l'intercommunalité. Aussi, dans la maîtrise d'ouvrage public, les collectivités publiques françaises commandent des bâtiments, commandent des ouvrages, commandent des rénovations dans la gestion de la propriété forestière. Ça, c'est l'origine même de nos associations et c'est ce qui a fait le début des communes forestières. Et puis, une responsabilité eu égard aux risques naturels. Alors, les responsabilités d'aménageurs du territoire et de garantie de l'intérêt général, elles ont abouti à la création, côté français, de bois des Alpes. L'objectif global est de poursuivre l'entretien de la forêt, de conserver sa multifonctionnalité, l'accueil du public, la qualité des paysages, la question de la qualité de l'eau. Quand je parle du public, vous avez le même problème ici, évidemment, c'est la question de savoir comment la forêt peut rester un endroit qui est un endroit qui n'est pas refermé sur lui-même, mais qui est ouvert à différents acteurs que sont les chasseurs, les randonneurs, les trailers, les vététistes, les skieurs l'hiver. Et donc c'est un enjeu éminemment important. Et donc, pour la pérennité de nos territoires, sans entretien, la forêt risque d'être mise en péril, notamment dans un contexte de changement climatique et puis dans un contexte structurel, parce que nous avons une forêt extrêmement morcelée. Notamment, la forêt privée française est extrêmement morcelée et nous avons à peu près un tiers des propriétaires qui ne savent même pas qu'ils sont propriétaires de parcelles forestières. C'est une question de gestion à la fois des cadastres sur la partie publique, à la fois aussi une question de gestion des successions où parfois il y a eu des oublis et des successions qui n'ont pas été faites. Les parcelles étant tellement petites qu'elles ont parfois été oubliées. Donc la valorisation des bois issus des coupes est la condition pour nous sine qua non pour déclencher les exploitations forestières nécessaires à l'entretien de la forêt. Donc Bois des Alpes, le label Bois des Alpes vise donc à mieux valoriser les bois locaux pour atteindre son objectif initial. Et puis alors l'élu, il est aussi proactif dans le développement économique local. Il développe la filière bois locale comme source d'emploi pour son territoire. La filière bois, c'est plus de salariés que la filière automobile en France. Pour vous dire une idée. Bois des Alpes joue un rôle important dans l'organisation de la filière qui va de la forêt au bois. Filiale forêt-bois. Et la certification Bois des Alpes permet de rassembler les acteurs autour d'une stratégie portée à l'échelle d'un massif dont les enjeux sont similaires et cohérents, les enjeux du massif alpin. Et elle permet de mettre en place une organisation en grappe des entreprises pour permettre l'approvisionnement en bois locaux dans des rayons pertinents économiquement au sein du massif alpin et réalistes par rapport au tissu d'entreprise existant sur le massif, par une opposition à un circuit des bois intracommunal qui est pour le coup très très compliqué à mettre en œuvre. Il faut qu'il y ait adéquation entre l'offre existante et la demande. Et enfin, de mettre en valeur des bois d'œuvre de montagne de qualité avec un cahier des charges technique. Et il y a une garantie qui, pour le consommateur, c'est à la fois d'être sûr que 100% des bois qu'il commande vient du massif alpin, garantir aussi une viabilité économique du projet, et pour la filière forêt-bois dans notre secteur, évidemment, le maintien des emplois locaux. Alors, l'élu agit pour faire coopérer les territoires en utilisant les labels de qualité et de provenance tel Bois des Alpes. Dans les bassins urbains, consommateurs de construction, les documents d'urbanisme élaborés par les élus peuvent imposer des critères orientant les projets de construction et d'aménagement au profit du bois local. Nous y travaillons énormément avec le Conseil d'architecture, le CAUE de Haute-Savoie. Nous y travaillons avec, évidemment, la filière. Nous avons travaillé ça avec le préfet, le représentant de l'État dans le département, qui a conditionné dorénavant, en 2019, l'obtention de certaines subventions d'État nationales à certains projets locaux au fait que nous aurions recours à ce type de bois labellisé. Quand je dis conditionné, en fait, c'est plutôt une logique positive au sens où on va permettre d'avoir un bonus supplémentaire, plus d'argent, si d'aventure le maire s'engage à construire sa salle des fêtes, son gymnase avec du bois labellisé Bois des Alpes. Donc en intégrant le label Bois des Alpes, les élus permettent de faire le lien avec les territoires ruraux où se trouve la ressource forestière et ainsi instaurer un terme qu'on aime beaucoup, qui est le terme de la réciprocité entre l'urbain et le rural, et en répondant aux enjeux du changement climatique et évidemment mettant ces circuits courts en place entre des agglomérations. Alors vous en connaissez une qui est proche d'ici, qui est l'agglomération d'Annemasse, il y a celle de Thonon-les-Bains, il y a celle d'Annecy, et puis il y a des grosses communautés de communes qui sont capables aujourd'hui de porter des initiatives de chartes forestières, des choses qui vont dans ce sens-là. Et donc le bassin Genevois pourrait évidemment entrer dans ce type de processus et intégrer ce type de réciprocité, peut-être à une échelle un peu plus large encore que celle que nous avions imaginée, en conservant ces principes et en permettant donc d'aller plus loin et en valorisant les versants forestiers, qu'ils soient suisses ou français. Voilà ce qui a mené notre réflexion des communes forestières avec les personnes qui représentent la filière que je vois ce matin présent. Et donc, c'est une initiative sur laquelle nous sommes prêts à travailler avec ceux qui seraient intéressés pour que nous développions au maximum ce type de réciprocité. Je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie, monsieur le sénateur. Mais quelle collaboration transfrontalière y a-t-il ? Nos forêts sont souvent à cheval sur la frontière. Et que faites-vous ensemble ? Ça demande une réflexion.
Je pense assez peu de choses, finalement.
Eh bien,
On pourrait aller plus loin.
C'est un des buts qu'on rappelait tout à l'heure, que M. Roger Bert rappelait. Si on a lancé précisément cette étude sur les relations transfrontalières, c'est quand même une certaine logique. Comment, et messieurs, vous allez pouvoir, M. Fouvy ou M. Rosset, également intervenir là-dessus, mais comment peut-on imaginer la gestion d'un espace forestier, en somme, que la gestion de 50%, par exemple, de l'espace forestier, sans concertation avec celui qui possède l'autre 50%? Bien, merci d'y répondre tout à l'heure. Je porte la parole maintenant à M. Rosset.